CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Bonjour, bonjour tout le monde, vous écoutez CFM, votre MAG du Tarn-et-Garonne, spécial politique. Aujourd'hui, c'est votre magazine Politiquement Votre et c'est présenté par Kader Youb. Bonjour Kader.
Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Cette émission est diffusée en direct de CFM Radio. Merci à tous d'être fidèles à Politiquement Votre, un rendez-vous spécial consacré au canton Aveyron-Lair. Avec nous aujourd'hui Valérie Rabault, députée de Tarn-et-Garonne, présidente du groupe PS à l'Assemblée nationale et candidate aux élections donc sur le canton Aveyron-Lair, COSAD. Bonjour Valérie Rabault, bienvenue.
Bonjour,
à vous sur CFM Radio.
Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation.
Un mot très rapide sur l'agression dont a été victime le président de la République. Elle vous inspire quoi, cette agression ?
J'ai tout de suite réagi en disant que j'étais choquée. Quand on, dans une démocratie, les institutions, les respecter, ça permet d'avoir un vivre ensemble et d'avoir une démocratie apaisée. Et agresser le président de la République, c'est agresser les institutions. Donc moi, j'ai été très choquée. Voilà.
Comment vous décririez la période actuelle que l'on vit ?
Heurtée. Oui. Voilà. On a besoin de sortir de cette crise et on n'a pas besoin d'entrer dans une période heurtée. On a besoin d'apaisement, on a besoin d'avoir des objectifs communs, enfin voilà, de retrouver un bien-vivre qui profite à chacun.
Est-ce que la pandémie que nous vivons a remis en cause, en question, votre philosophie de vie, certaines certitudes que vous aviez en vous ?
Voilà, c'est très philosophique comme question. Mais c'est vrai que c'est une expérience hors norme pour nous tous, hein, d'avoir été confinés. En tout cas, le premier confinement était quand même très rude. Moi, je l'ai respecté. Même si j'ai dû aller à Paris, nous étions 8 dans l'hémicycle. Ouais. Chaque groupe avait le droit à un représentant, plus le Premier ministre. Donc là, vous vous sentez, vous vous dites oui, là, c'est grave. Ouais. Évidemment, ça va poser des questions sur ce qu'on veut faire maintenant, sur l'après, parce que je fais partie des... Je ne sais pas s'il faut être optimiste ou pessimiste, il faut être déterminé. Et être déterminé, c'est donc quand on a la responsabilité politique, c'est aussi tracer un horizon. C'est pour ça que je crois beaucoup à l'investissement. Je pense que la relance doit être un moment où on se pose la question de ce qu'on veut faire, refaire de la santé, refaire des médicaments en France, refaire de l'industrie, repositionner notre agriculture dont on a vu qu'elle nous a sauvés pendant cette crise parce qu'on n'était pas dépendants d'ailleurs. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup d'axes qui peuvent être repositionnés et qui sont assez motivants, je dois bien le dire, pour reconstruire une société qui se voit de manière positive. Il est évident que le fait qu'on n'ait pas été en capacité d'inventer le vaccin et qu'on soit le seul membre permanent du Conseil de l'ONU à ne pas être capable d'inventer un vaccin nous pose des questions sur nous-mêmes, sur notre capacité.
Il avance le vaccin.
J'espère qu'il va avancer. Moi, je constate juste qu'on ne l'a pas aujourd'hui. Je constate juste que pour AstraZeneca et Moderna, les deux personnes qui sont à la tête de ces deux entreprises qui vaccinent sont des Français. Oui. Donc ça veut dire que si ces Français sont partis, c'est qu'ils n'ont pas trouvé un terreau favorable en France pour faire prospérer leur innovation technologique. Donc moi, je vois un déclassement scientifique de notre pays qui me pose énormément de problèmes, qui ne date pas d'hier, mais qui s'est accéléré. Et si on ne réagit pas sur la santé, si on ne réagit pas sur d'autres sujets, notamment la transition énergétique, dans 5 ans, on se retrouvera comme on est aujourd'hui sur le vaccin, sur tout un tas d'autres sujets. Donc c'est le moment de vraiment se positionner.
On va rester sur la politique nationale. En tout cas, il y a tout juste un mois, nous sommes le 10 juin, il y a tout juste un mois, vous célébriez les 40 ans du 10 mai 81. 40 ans après, est-ce que le Parti Socialiste est un parti d'avenir, selon vous ?
Mais je ne sais pas si lui est un parti d'avenir. En tout cas, il porte toujours en lui des idées d'avenir. Je rappelle que nous avons été, nous, avec notre petit groupe que nous sommes aujourd'hui, ceux qui avons empêché la privatisation des aéroports de Paris. Alors vous allez me dire, oui, c'est loin et on s'en fiche. Non, mais les infrastructures, je peux vous dire qu'aujourd'hui, heureusement, les aéroports de Paris sont dans le giron national. Nous sommes ceux qui proposons la prime climat que personne d'autre a proposé. C'est-à-dire que quand vous faites une rénovation chez vous, si on vous donne une subvention, mais que vous ne pouvez pas financer les 70% restants, eh bien, vous ne faites rien. Et c'est ce qu'on voit. On a un déficit dans notre département sur les logements qui sont des vraies passoires. En 2023, avec la loi qui a été votée par la majorité, vous avez 3728 logements qui ne pourront plus être loués dans notre département, parce que ce sont des vrais passoires. Donc ça, il faut prendre le taureau à bras-le-corps maintenant, attendre 2023 en se disant « Ah bah tiens, mon logement, il est classé G ou F, je ne vais pas pouvoir le louer. » Tout ça, c'est des questions. Oui, mais c'est des questions très pratico-pratiques sur lesquelles nous portons des idées. Nous avons mis des propositions très concrètes. Alors, je sais qu'elles ne sont pas forcément dans le débat, parce que comme on est dans une période heurtée, on préfère entendre des extrêmes plutôt que des positions qui soient construites. Mais n'empêche que ça, ce sont des idées d'avenir.
Un mot, on reste encore sur la politique nationale. Olivier Faure, votre premier secrétaire, souhaitait que 2021 soit, je cite, un big bang social et écologique, une refondation complète du PS avec un point d'orgue, un projet en lien avec la société. Est-ce qu'il arrive? Quand c'est qu'il arrive, ce projet?
Non, mais vous pouvez me parler des autres. Moi, je vous parle de ce que je porte en tant que présidente de groupe.
D'accord.
Donc, je veux bien parler de ce que je fais moi, ce que font les autres. On peut aussi en parler, mais je vais d'abord vous parler de ce que je fais moi.
C'est pour le parti.
Oui, mais moi, je suis présidente d'un groupe qui ne comporte pas que des socialistes, qui comporte du MRC, qui comporte des générations, qui comporte des personnes qui sont apparentées, mais qui ne sont pas dans un parti politique. Donc, je m'exprime en leur nom. Et uniquement en leur nom. Nous avons porté cette prime climat. Nous avons porté le minimum jeunesse. Nous sommes les seuls à l'avoir porté dès juillet 2020. Pourquoi ? La France, elle a une tradition de générosité, d'une politique sociale généreuse. Pour autant, elle fait partie des 4 pays de l'Union européenne, sur 27, 4 pays de l'Union européenne, qui n'ouvrent aucun droit social aux jeunes. Entre 18 et 25 ans, si vous n'avez pas de travail, si vous ne faites pas des études, vous n'avez pas de bourse, si vous n'avez pas vos parents derrière vous, et que vous ne travaillez pas, vous êtes sans rien. Eh bien, quand on est la France, c'est inacceptable. Donc nous avons porté de nombreuses propositions, que ce soit des expérimentations, de se dire, comme il existe un minimum vieillesse dans le pays, eh bien, il faut qu'il existe un minimum jeunesse. Pour qu'il n'y ait pas de... Ça, ce sont des choses très concrètes. Comme la majorité l'a refusé, nous avons avancé dans le programme pour le canton Aveyron-Lair, pour les élections départementales qui vont avoir lieu les 20 et 25 juin prochains, des propositions pour qu'il y ait un filet de sécurité pour les jeunes. Encore une fois, moi j'ai rencontré de nombreux jeunes ici en Tarn-et-Garonne qui se retrouvent sans rien parce qu'ils n'ont pas tous leurs parents derrière eux. Eh bien ça, c'est inacceptable. Donc ça, ce sont des choses très concrètes. Alors vous allez me dire, avec quel argent on le finance ? On a fait un plan de financement. On ne part pas avec des idées qui peuvent être intéressantes et qui ne seraient pas réalistes. Mais ça, ce sont deux exemples qui sont extrêmement concrets que nous avons proposés. Troisième sujet, dans les batailles que nous menons, il y a le fait qu'il faut que le gouvernement retire la réforme de l'assurance chômage. En Tarn-et-Garonne, vous allez avoir 5500 perdants à partir du 1er juillet. C'est-à-dire essentiellement des jeunes qui seront perdants. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de rajouter de la crise à la crise aujourd'hui.
Sur la retraite qui va être vraisemblablement mise sur le devant de la scène, qui va faire l'actualité dans les prochains mois, c'est en tout cas cette musique qu'on entend, cette petite musique qui revient incessamment. Est-ce que, d'après vous, il ne faudrait pas la faire, en tout cas pas tout de suite ?
Mais, enfin, vous avez déjà vu, le gouvernement nous propose une réforme des retraites sans chiffres. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. C'est quand vous faites une réforme des retraites, vous voulez savoir ce que vous allez avoir, ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous allez avoir avec la réforme, ça paraît quand même être le béaba. L'année dernière, ils ont quand même proposé une réforme des retraites sans chiffres. Ils ont fait le chiffrage après, qui a été interrompu du fait du confinement. Là, je ne sais pas ce qu'ils mettront sur la table.
Une ouverture des droits, c'est ce qui, en tout cas, d'après Le Monde, une ouverture des droits à 64 ans, des droits pleins à la retraite à 64 ans.
Oui.
Est-ce que, d'après vous, c'est ce qu'il faut faire ?
Non.
Avec un régime de retraite qui, d'après ce qu'on nous dit, deviendrait exsangue dans les 10 à 15 à venir.
Oui, sauf qu'ils n'ont mis aucun chiffre sur la table. Donc moi, tout ça, je veux bien que le gouvernement fasse une com. La seule communication que veut faire le gouvernement aujourd'hui, c'est de dire, pour rembourser la dette, il faut faire la réforme des retraites. C'est la seule chose qu'ils disent, sans dire exactement ce qu'ils veulent faire, peut-être reporter l'âge légal. Encore une fois, on peut tout mettre sur la table, on peut discuter de tout, mais il faut le faire de manière sérieuse. Et ce qui a été fait l'an dernier est inacceptable. Et je pèse vraiment mes mots. Faire une réforme des retraites en mettant pas un seul chiffre sur la table, en disant, vous avez aujourd'hui 1 200 €, avec la réforme, vous aurez 1 150 ou 1 300.
Mais elle a été arrêtée.
Bah oui, mais sauf qu'on a fait voter l'Assemblée nationale en première lecture et qu'on a fait ensuite une commission de financement pour réfléchir au financement. Donc il faut arrêter de faire les choses à l'envers. La démocratie, elle a besoin d'être un peu structurée.
Vous êtes une spécialiste des chiffres, Madame Rabault.
Derrière chaque chiffre, il y a une réalité.
Il faut faire quelque chose sur les retraites. Un mot sur les retraites. Est-ce qu'il faut faire quelque chose ?
Ma priorité, c'est la relance. C'est pas les retraites.
D'accord.
Et le gouvernement, et c'est pas moi qui le dis, puisque la Commission européenne, la semaine dernière, a publié ses perspectives pour 2022, la France est celle qui aura la reprise la moins importante en 2022. Donc la relance, ça doit être maintenant. C'est maintenant qu'il faut booster notre économie. Sinon, on va encore prendre du retard. Ce qu'on a vécu sur le vaccin, qui est un déclassement scientifique et technique inacceptable, en tout cas à mes yeux, eh bien on va le vivre sous tout un tas d'autres sujets.
Un dernier sujet d'actualité, le texte très attendu de bioéthique et sa mesure phare d'ouverture de la PMA à toutes les femmes est revenu donc chez vous à l'Assemblée nationale.
Oui, on l'a voté.
Vous l'avez voté. Est-ce que c'est un bon texte, finalement, ce texte sociétal du quinquennat?
On va voir déjà s'il va jusqu'au bout. Oui. Mais oui, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, moi, me paraît être une très bonne avancée.
Il est équilibré, c'est un très bon texte.
Non, mais ça, c'est une bonne mesure. Donc, on l'a voté. Oui, vous voyez, on n'est pas dans une opposition. Quand il y a des textes qui nous paraissent bons, on les vote, bien évidemment. Et ça, cette mesure est une bonne mesure.
Alors, vous faites un bilan mitigé de la mandature Astruc ou...
Ah non, je ne fais pas un bilan mitigé, ça c'est vous qui le dites. Moi, je fais un mauvais bilan.
C'est une question.
Ah oui, non, ce n'est pas un bilan mitigé, c'est un mauvais bilan. C'est-à-dire que quand on ne veut rien faire, ne rien faire pendant 6 ans, eh ben, c'est condamner le Tarn-et-Garonne à prendre du retard. Et parfois, il y a du retard qui ne se rattrape pas. Et là, alors, il y a effectivement du retard qui ne se rattrape pas. Donc,
on vous répond qu'on a mis fin à des dépenses somptuaires, que finalement, l'équilibre est revenu au budget. Est-ce que vous répondez à ça?
Écoutez, les dépenses somptuaires, il va falloir qu'ils nous montrent les chiffres. Pour l'instant, ils les ont pas quand même... Je ne l'ai pas vu. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a 60 millions d'euros dans les caisses du Conseil départemental. Je ne crois pas que le président du Conseil départemental évoque à placer cet argent, surtout qu'il emprunte 13 millions d'euros chaque année, pourquoi faire, à placer cet argent quand vous avez des taux d'intérêt négatifs. Alors là, pour le coup, je pense que n'importe quel étudiant en économie pourrait vous dire que c'est un non-sens absolu. Quand on est à la tête d'une collectivité comme le Conseil départemental, on doit créer l'effet d'entraînement. C'est-à-dire pas faire à la place des autres, mais créer un effet d'entraînement. Que ça passe par les infrastructures, que ça passe sur les collèges. Enfin, vous voyez, il y a énormément de sujets qui se posent aujourd'hui et pour lesquels, nous, on constate, je prends le canton Aveyron-Lair, c'est celui qui, en termes, par exemple, sur la voirie, donc la voirie, ça concerne tout le monde, sur la voirie départementale, a bénéficié du moins d'investissements sur les 6 dernières années. Alors que ce canton regroupe Caussade, Nègrepelisse, Saint-Étienne, qui sont les 3 plus grandes communes de ma circonscription derrière Montauban. C'est-à-dire des communes, je prends Nègrepelisse, a gagné 1000 habitants au cours des 7 dernières années. Donc ça veut dire qu'en termes d'infrastructure, il y a de vrais besoins pour que à la fois l'activité économique fonctionne, que le bien-vivre fonctionne, toutes ces questions-là, ça fait partie de la responsabilité des élus. Un élu n'est pas là pour dire écoutez, j'attends que ça se passe, je mets l'argent dans les caisses et surtout, je ne bouge pas. Ça, c'est le contraire de ce qui doit être fait au Conseil départemental.
Valérie Rabault, votre candidature a surpris un petit peu, votre candidature au départemental, elle a surpris au travers de tout ce que, par rapport à votre fonction de députée. Est-ce que si vous êtes élue conseillère départementale, vous serez candidate aussi à la présidence du Tarn-et-Garonne?
Je sais que tout le monde est très intéressé par les castings qui peuvent exister pour être élu, pour être candidat.
C'est pas du casting,
Non, mais je sais. Alors, d'abord, je vais répondre à vos questions dans l'ordre. Pourquoi ma candidature a surpris? Il est exact que je n'avais pas forcément prévu d'être candidate, mais il est exact aussi que je prends mes responsabilités en tant que responsable politique et que j'ai été sollicitée. Alors, certains ne le croient pas, mais écoutez, c'est la vérité. J'ai été sollicitée pour être la partie féminine du binôme que nous formons.
Avec
Cédric Bessière, exactement, qui est très dynamique, qui a presque failli gagner la dernière fois au municipal à Caussade, puisqu'il y a manqué une 50aine de voix, donc ce qui est très faible
voix, oui.
Qui connaît très bien le territoire. Et donc, du coup, quand je vous le redis, ce canton, il compte les 3 plus grandes communes de ma circonscription, moi, je ne vais pas me déclarer aux abonnés absentes. Donc, je suis très contente de mener cette campagne avec lui, avec Ingrid Gonzalez, qui est élue à Bulle, et avec Jean-François Camas, qui est maire adjoint aux finances de la commune de Nègrepelisse, qui sont les remplaçants, et on mène une campagne de terrain, comme on aime, avec des projets très concrets. Notre programme, il n'est pas révolutionnaire. Mais je vais répondre à votre question. Oui. Il n'est pas révolutionnaire, mais on part d'un constat, on a pris sujet par sujet. Les collèges, les routes départementales, la transition énergétique. On a fait des constats qui sont appuyés sur des études extérieures, donc ce n'est pas nous qui le disons. Il y a vraiment, quand on est classé, par exemple, sur le bien-vivre chez soi, 79e sur 97, ce n'est pas nous qui avons fait les notations. C'est l'Observatoire du bien-vivre à domicile qui l'a fait. Donc là, alors que la Haute-Garonne est classée 4e, notre voisin. Donc je veux dire, là, on ne peut pas dire que c'est pas... On peut largement mieux faire. Donc pour répondre à votre question, pour des candidatures, si on est élu et s'il y a une majorité. Oui. Moi, j'ai dit que je ne serais pas candidate à la présidence. Donc, je l'ai dit à plusieurs reprises. Je suis très claire. On verra la majorité qui se dégage. Mais bien entendu, je ne serai pas aux abonnés absents.
C'est-à-dire que...
Vous connaissez la loi. Il n'y a pas de cumul des mandats. Je suis députée. Moi, contrairement à mes adversaires... Contrairement à mes adversaires sur ce canton, les mandats que j'ai, je les mènerai jusqu'au bout. Si mes adversaires étaient élus, en tout cas un, la loi l'empêchera de mener ses mandats jusqu'au bout. Donc ça, ce n'est pas honnête vis-à-vis des électeurs. Quand on s'engage vis-à-vis des électeurs et des électrices, si on est élu, on mène le mandat jusqu'au bout. Mon adversaire, qui est aussi parlementaire, lui, il est élu dans une commune de plus de 1000 habitants, il sera obligé de choisir s'il est élu entre l'un de ses mandats. J'espère qu'il le dira aux électeurs, aux électrices, qu'il aura l'honnêteté. Ce qui n'est pas mon cas à moi, parce que moi, je suis élu dans des communes, une commune qui fait de moins de 400 habitants.
Mot sur la santé. Valérie Rabault-Christian Astruc a annoncé que le Premier ministre avait validé le projet de construction d'un hôpital neuf à Montauban dans le cadre du Ségur de la santé, feu vert de l'État, donc pour sa réalisation d'une part, et financement à la clé selon l'actuel président. Est-ce une bonne nouvelle pour le département?
Alors, si vous le voulez, je vais vous montrer le texto que j'ai eu du Premier ministre, parce que je lui en ai parlé en direct. Non. Parce que les annonces du président du conseil départemental qui sont des fausses annonces, ça ne me paraissait pas...
C'était de l'intox selon
vous? Ah ben c'est pas de l'intox selon moi, si vous voulez que je vous le dise en direct. Le texto du Premier ministre, je vais vous lire, je vais le rechercher, comme ça vous aurez en direct sur votre antenne. Parce que, vous voyez, c'est ça qui ne va pas dans la démocratie. C'est de faire des annonces qui ne sont pas financées. Il est évident qu'aujourd'hui, sur l'Occitanie, il y a 1,2 milliard qui est alloué par l'État pour qu'on puisse à la fois soutenir des hôpitaux et refaire soutenir des hôpitaux. Donc je vais vous lire, ça c'était à 15h52 le mardi 1er juin. Il me dit, non, je n'ai fait aucune annonce. Donc je pense que c'est clair et c'est écrit et vous pouvez le voir vous-même. Je vous passe mon téléphone, comme ça vous le verrez. Donc vous voyez, ça, c'est pas acceptable. Maintenant qu'il y a besoin d'un nouvel hôpital, qu'il y a besoin d'une rénovation de l'hôpital de Montauban, évidemment. Est-ce qu'il faut que cet hôpital aille à Bressol? La réponse est non. La réponse est non. Ah. Montauban doit garder un hôpital à Montauban.
C'est-à-dire que vous seriez...
Si on est élu le 1er juillet et que nous avons une majorité, nous ne soutiendrons pas un hôpital qui partira à Bressol. C'est très clair.
C'est-à-dire
qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs solutions. Vous avez les ateliers du conseil départemental. Vous avez les épareuses, les faucheuses qui rentrent dans Montauban, qui sont juste derrière l'hôpital. Le conseil départemental peut parfaitement donner ce terrain-là pour agrandir l'hôpital de Montauban qui existe. Et on garde un hôpital en centre-ville. Et ça, c'est indispensable. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et si nous avons la majorité le 1er juillet, c'est ça que nous défendons.
Un tel équipement, c'est pour le département, hein, comme dans d'autres départements.
D'accord, mais on peut aussi... Vous voyez, c'est ça toute l'ambiguïté des politiques. On dit il faut revitaliser les centres-villes, et puis tout part à l'extérieur. L'hôpital part à l'extérieur, la CAF part à l'extérieur. Alors, la CAF, c'est pas l'État. Mais enfin, on a aujourd'hui un hôpital qui est très bien placé. Qui est en face des sapeurs-pompiers à Montauban. J'ai bien conscience que ce n'est pas un hôpital que pour Montauban, mais c'est aussi un hôpital pour les Montalbanais. On peut y aller à pied. Évidemment, il a besoin d'être largement rénové. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin de le mettre à Bressol. Parce qu'une fois que vous êtes à Bressol, vous regardez vers Toulouse et là, vous vous retrouvez quasiment dans la banlieue toulousaine. Donc Bressol, c'est non.
Sur la santé, donc c'est non pour Valérie Rabault à Bressol. Comment encourager l'installation de nouveaux médecins dans le département? Est-ce que vous avez un plan pour ça?
Alors, on a... Bon, évidemment, c'est une question qui revient
systématiquement. Et pourquoi?
Sur le canton, évidemment. Sur le canton Aveyron-Lair, nous avons fait un décompte. On manque de 5 généralistes. Donc évidemment, alors qu'il y a une maison de santé, par exemple, à Moricou, qui fonctionne très bien, qui a été montée de A à Z par les professionnels eux-mêmes, mais ce n'est pas assez. Voilà. Mais qui a été, vraiment, je les salue parce qu'ils ont été pionniers dans le département, notamment pour accueillir des élèves stagiaires. Et ils sont, c'est impressionnant ce qu'ils ont réalisé. Et donc, nous, on dit pas de dogmatisme. C'est-à-dire que si on dit il faut soutenir, bien entendu, financièrement les maisons de santé. Ça, c'est ce qui est prévu. Et puis aussi, s'il faut salarier des médecins généralistes, parce que certains préfèrent le salariat à exercer en libéral, eh bien, il faudra le faire.
Vous embaucheriez
comme l'ont fait d'autres conseils départementaux. Oui. Je pense notamment à celui de Saône-et-Loire, qui est présidé par un président LR. Donc, vous voyez, c'est pas un gauchiste. Donc, il faut être pragmatique là-dessus. Il faut s'adapter aux nouveaux exercices de la médecine pour les médecins généralistes, sans avoir faire de dogmatisme et répondre avec avoir comme seule boussole une réponse aux habitants de ce territoire.
Le Tarn-et-Garonne est très agricole. Je suis désolé, on enchaîne les sujets, mais on manque de temps. Le Tarn-et-Garonne est très agricole, avec des cultures très consommatrices d'eau. Le département va devoir apprendre à consommer sa ressource avec parcimonie. Comment protéger, optimiser notre ressource en eau, selon vous, un rabot ? Est-ce que vous seriez partisane de réaliser des retenues d'eau, des barrages ainsi que le souhaitent d'autres, votre adversaire politique.
Oui, il y a plusieurs choses là-dessus. D'abord, il faut faire l'entretien des rivières. Je rappelle que c'est quand même la compétence du conseil départemental. Bon, moi, je vous invite à aller voir certaines rivières du canton. Vous verrez tout de suite, en faisant une photo, qu'elles n'ont pas été entretenues. Donc ça, c'est pas avec des... Donc ça, l'entretien des rivières, c'est indispensable. Je rappelle aussi que sur l'entretien des rivières, l'agence de l'eau assure des cofinancements. Quand on regarde ce qu'on a demandé comme argent, vous savez, l'argent, si on ne va pas le chercher à l'extérieur, il n'arrive pas tout seul. Donc on a été très peu demandeurs par rapport à d'autres départements. Donc ça pose un vrai sujet. Et quand on regarde par habitant le montant versé, c'est 2 fois moins que sous le précédent quinquennat. Donc ça veut dire que cet argent n'a pas été récupéré pour les Tarn-et-Garonnais et les Tarn-et-Garonnaises. Troisième sujet, c'est évidemment, les retenues d'eau et repenser le cycle, la question de l'eau qui n'est pas que pour les agriculteurs. Ouais. Il y a aussi une question d'eau potable qui va se faire sentir. Donc moi, je suis favorable avec la région, parce que là, c'est un chantier qu'on porte avec la région Occitanie. La présidente de région qui est venue samedi dernier à Montauban l'a dit très clairement, en reprenant la compagnie... des coteaux de Gascogne, pour avoir une meilleure prise en main et vraiment déployer un plan sur la ressource en eau.
Au niveau de l'agriculture, certains élus continuent à considérer que l'agriculture doit être compétitive et un atout pour l'exportation.
Est-ce que je le pense aussi.
Vous le pensez aussi ?
Oui, je le pense aussi. On est le premier département producteur de pommes de France.
Oui.
Et on est celui qui, avec des grandes coopératives installées sur notre territoire, qui exporte la moitié des pommes que la France exporte. Donc ça, c'est vraiment de la valeur ajoutée pour notre territoire.
Est-ce qu'il faut...
Il y a d'autres cultures, je cite les pommes parce que il y en aura d'autres.
Est-ce que le Tarn-et-Garonne peut développer une agriculture à la fois adaptée aux défis climatiques, respectueuse des ressources naturelles et capable de répondre aux besoins alimentaires de la population ?
Mais oui, parce qu'il y a le bio et puis il y a le HVE, la haute valeur environnementale. Bon, ça, c'est très important. Il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'en Tarn-et-Garonne, vous avez 1 million de repas qui sont servis dans les collèges. Combien vous avez de bio ou de HVE dans ces repas ?
Repas par jour,
zéro.
Zéro ?
Zéro. D'autres, les lycées servent 40% aujourd'hui, la région Occitanie, dans ses lycées, sert 40% de repas locaux ou bio.
Bon, ben ça, vous accentuerez le recours au biologique
Bio, le local, le HVE, bien sûr. C'est quand même, quand on vit dans un département qui a une richesse agricole comme la nôtre, mais c'est quand même génial de pouvoir manger des cerises d'ici, des melons, vraiment ce qui fait le goût. Et l'apprendre dans les écoles, on voit quand on a des cantinières, vous prenez à Bioul, qui est la cantine qui est montrée par tous les médias nationaux, avec des cantinières qui utilisent des produits locaux,
avec un projet très très
avec un projet où on fait à la fois déjeuner les aînés et les enfants. Donc enfin voilà, mais ils mangent bien en plus. Ouais. Donc
ce sont des initiatives qui sont
à prendre au conseil départemental.
Ouais.
Le conseil départemental a 18 collèges, 1,2 million de repas. Me dites pas que sur les 1,2 million de repas, on peut pas faire de temps en temps une fois par semaine du 100% Tarn-et-Garonne ou presque.
En tout cas,
le faire découvrir le goût du Tarn-et-Garonne dans son assiette, ça doit devenir une priorité.
Est-ce que vous aiderez les agriculteurs à vivre correctement de leur métier, Mme Rabot ?
Mais
au travers du conseil départemental.
Le conseil départemental, ça ne vous aura pas échappé, il n'y a pas de compétences agricoles, à part quand il vient sur des fonds de soutien. Mmh. Mais là, c'est une proposition très concrète. Quand je vous parle 1 million de repas, alors ça ne va pas faire tout leur chiffre d'affaires, on est d'accord. Mais ça, c'est un premier exemple. La deuxième, qui dépasse le champ du conseil départemental, c'est la négociation qui se passe actuellement sur la PAC. Moi, je le dis depuis bien longtemps, qu'il faut que les exploitations de taille intermédiaire soient beaucoup plus bénéficiaires de la PAC qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et l'arboriculture, qui a beaucoup souffert, notamment avec le gel, les 12 jours de gel qui ont eu lieu, est très peu avantagée par la PAC. Donc toutes ces questions-là, oui, elles se portent au niveau européen. J'en ai discuté avec le secrétaire d'État aux affaires européennes, parce que voilà, et c'est avec Julien de Normandie. Julien de Normandie est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, comme le nouveau ministre de l'Agriculture. Je ne suis pas de sa majorité, mais c'est quelqu'un avec qui on arrive à discuter. Et ça, clairement, on le porte.
Valérie Rabot, une Toute dernière question, l'année prochaine, donc, il y aura l'élection présidentielle. Est-ce que vous seriez, vous, prête à un gouvernement d'union nationale et pourquoi pas rejoindre Emmanuel Macron dans son projet?
Et Emmanuel Macron m'a proposé en juillet 2020 d'être, de rejoindre son ministre, gouvernement. Oui. Oui, d'être ministre. Voilà. J'ai dit non. Parce que moi, je suis fidèle, mais je fais de la politique, pas pour avoir des postes, je fais de la politique parce que j'ai envie de défendre des idées, défendre des territoires, c'est ce qui m'intéresse. Et encore une fois, à ce moment-là, je lui ai dit, puisque quand même ça tanguait, je lui ai dit, mais faire un gouvernement comme ce que font les Allemands d'Union, tout ça, on doit mettre... Quand l'Allemagne fait ça, elle écrit un programme où tout le monde se met d'accord. C'est ce qu'on fait au sortir de la guerre entre les communistes et les gaullistes.
C'est un programme sur
mais c'est pas du tout l'état d'esprit de la majorité qui refuse tout. Moi, j'ai jamais vu ça. Non, mais vous pouvez faire des si à longueur de phrase si vous voulez. La majorité refuse tout. Vous vous rendez compte qu'elle a refusé le minimum jeunesse et que certains de ses candidats le proposent aux élections régionales? Mais ça, c'est se foutre des électeurs. Pardonnez-moi pour le terme. Enfin, là, je suis très en colère. Donc, il faut être respectueux des électeurs, c'est-à-dire que quand on s'engage sur quelque chose, ben voilà, on le défend jusqu'au bout. Eh bien, je pense que c'est pas la majorité n'est pas du tout dans cet état d'esprit, et la majorité du conseil départemental encore moins. Donc, les 20 et 27 juin prochains, je vous invite à voter pour le binôme Vessière-Rabault. Sur le
Merci.
Canton Aveyron-l'Hers.
Merci beaucoup, Valérie Rabault, d'avoir accepté l'invitation de CFM Radio.
Merci pour votre invitation.
On se retrouve
à Politiquement
tout
Vôtre.
Après. Merci beaucoup.